Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la clé pour ouvrir la porte de notre âme au bon Dieu, c'est l'humilité. Et il y a dans l'épître de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, qui a été choisi par la Sainte Église aujourd'hui, une phrase qui nous fait bien comprendre. Une phrase très forte de Saint Paul. Et si quelqu'un croit être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se séduit lui-même. Et nous croyons tous être quelque chose. Eh bien, si nous croyons quelque chose alors que nous n'avons rien par nous-mêmes, nous nous séduisons nous-mêmes. Pourquoi ? Saint Augustin explique en disant « Tout ce qui est de bien en moi vient de Dieu, et tout ce qui est de mal en moi vient de moi-même. » On peut expliquer différemment en disant « Si je peux arriver au ciel, c'est grâce au bon Dieu qui m'a donné des grâces spéciales. Si je tombe en enfer, c'est ma faute. Le bon Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et ne refuse jamais sa grâce à celui qui la demande avec humilité. Mais cette humilité va nous faire comprendre une chose, et encore un avertissement dans l'épître d'aujourd'hui, encore une phrase très forte de Saint Paul, de Dieu, on ne se moque. Donc l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? L'orgueilleux, il pense qu'il peut tout faire par lui-même. Il pense même, dans certains cas, qu'il va pouvoir accéder au ciel par sa propre force, à la force du poignet. Il se moque de Dieu, parce qu'il pense pouvoir arriver à quelque chose de surnaturel sans la grâce du bon Dieu. N'oublions pas que nous ne pouvons pas, même après un péché, souvent on oublie ces choses-là, même après un péché grave, on ne peut pas regretter son péché surnaturellement sans la grâce du bon Dieu. On peut regretter son péché naturellement, mais pas surnaturellement. C'est pour cela que dans les conditions pour qu'une confession soit bonne, qu'on trouve dans le catéchisme du Concile de Trente, il est dit à propos de la douleur du péché qu'il faut que cette douleur soit surnaturelle. Il y a fruit déjà d'une grâce du bon Dieu. Vous allez me dire, mais le bon Dieu ne peut pas nous donner sa grâce, puisque si je suis un tas de péchés mortels, je n'ai pas la grâce sanctifiante. On n'a pas la grâce sanctifiante, c'est vrai. Mais le bon Dieu donne des grâces spéciales qu'on appelle des grâces actuelles. Et la grâce actuelle est accessible même si je suis un tas de péché mortel, à condition que je sache la demander avec humilité. N'oublions pas que beaucoup de grâces du bon Dieu sont des grâces qu'on appelle des grâces conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles nous sont données à condition qu'on ouvre la porte. Le Seigneur le dit expressément, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Et si on ne cherche pas, si on trouve, si on ne frappe pas la porte n'est pas ouverte et on n'obtient rien du tout. Donc se rappeler de cette phrase qui me semble très importante, de Dieu on ne se moque pas, se rappeler qui est Dieu et qui est l'homme. Surtout aujourd'hui où l'homme veut se faire Dieu. Et quand l'homme veut se faire Dieu, il devient une bête. C'est comme ça que ça se passe. L'homme qui veut devenir Dieu, bien, se coupe complètement de son Créateur et du coup, tombe comme une petite marionnette, si vous voulez, qui se révolte contre la personne qui tire les ficelles. La personne coupe les ficelles et c'est fini, la marionnette tombe, plus rien. Un homme orgueilleux, c'est comme une marionnette sans fil. S'il n'y a pas le monteur de marionnette qui bouge ses doigts pour faire bouger la marionnette, il n'y a rien du tout. La marionnette se trouve par terre, absolument incapable de faire quoi que ce soit par elle-même. Donc se rappeler qui est Dieu et qui est l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, à chaque fois que nous sommes devant le Saint-Sacrement, il faut justement voir cette différence essentielle entre Dieu et nous. Dieu est le Créateur, moi je suis une créature. Et puisque je suis créature, eh bien j'ai des devoirs. Puisque Dieu est Créateur, il a des droits. Puisque Dieu est Créateur, il a des droits de me donner un mode d'emploi, je dirais, pour les puissances de notre âme qu'il nous a donné. Le bon Dieu nous a donné une âme, et c'est par cette âme que nous sommes créés, nous dit la Sainte Écriture, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, parce qu'évidemment, l'homme n'est pas créé à l'image de Dieu par son corps, puisque Dieu est un pur esprit. L'homme est créé à l'image de Dieu par son âme. C'est dans l'âme qu'on peut voir la réflexion de notre Seigneur Jésus-Christ, comme un miroir réfléchit l'âme de le visage de la personne qui est devant le miroir. Et comme toutes ces choses, sont importantes, et non seulement on a été créé à l'image de Dieu, mais nous, catholiques, qui j'espère sommes à l'état de grâce, nous avons en plus un don supérieur, un don supplémentaire que le bon Dieu nous donne. Si nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous sommes à l'état de Dieu, nous sommes créés aussi à la ressemblance de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, c'est la plus belle façon d'imiter le bon Dieu. Ressemblance du bon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état de grâce étant dans notre âme, Dieu donne une lumière spéciale à cette âme. Il ne faut jamais oublier ces choses-là. Rappelez que par nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est Dieu qui fait tout. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par saint Paul, réexplique ces choses-là. Il faut relire cette magnifique épître de saint Paul, que si je sème dans la chair, eh bien, je récolterai la corruption. Et si au contraire, je sème dans l'esprit, je récolterai la vie éternelle, dit saint Paul. Et on retrouve le même thème qu'il y avait dimanche dernier, à savoir le thème des deux étendards, encore une fois, à savoir, nul ne peut servir de maître à la fois. Soit je récolterai les fruits de la chair, soit je récolterai les fruits de l'âme et les fruits de l'esprit. Donc il faut bien se maintenir dans l'humilité pour pouvoir ouvrir la porte de notre cœur, mais pas simplement la porte de notre cœur, d'ouvrir aussi la porte de notre intelligence au bon Dieu. Et nous sommes dans un monde où ceux qui dirigent un peu le monde moderne cherchent à supprimer l'usage de nos intelligences. Ils ne veulent plus d'intelligence. Donc ils veulent remplacer littéralement l'intelligence humaine par ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est une intelligence programmable qu'on peut parfaitement contrôler à distance et qui supprime le devoir d'intelligence des gens. Donc les gens, n'ayant plus d'intelligence, seront incapables d'atteindre l'objet pour lequel le bon Dieu nous a donné une intelligence, à savoir le vrai. L'intelligence artificielle est incapable d'atteindre le vrai. En demandant au bon Dieu cette grâce de comprendre que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et c'est la façon d'expliquer aussi l'évangile du jour, le magnifique miracle de notre Seigneur. Il vient à Naïm avec ses disciples, avec ses apôtres, et voilà qu'une pauvre femme, une veuve, accompagne son fils qui vient de mourir, son fils unique qui vient de mourir au cimetière. Et il y a cette belle phrase dans l'évangile qui dit « Notre Seigneur fut mu de compassion ». Notre Seigneur en son humanité, puisqu'il est parfaitement homme et parfaitement Dieu, il est parfaitement homme, donc il a un cœur humain, par son cœur humain, il est mu de compassion. Et qu'est-ce qu'il dit à sa mère? Ne pleure pas. Il va toucher ensuite de sa main divine le cercueil et donne un ordre, lève-toi. Et le mourant, le jeune homme qui était mort se lève. Qu'est-ce que ça représente? Tu viens chercher chez les pères l'explication magnifique qu'il donne à ce miracle. Il dit, cette femme qui pleure parce que son fils est mort, c'est l'Église. L'Église catholique qui pleure pour ses enfants qui sont morts spirituellement. Et quels sont les enfants qui sont morts spirituellement? Quand sommes-nous morts spirituellement? Nous sommes morts spirituellement lorsque nous avons perdu la vie spirituelle, non? Et on perd la vie intérieure, on perd la vie spirituelle dans le péché grave. Et donc le péché grave est l'assassin de notre âme, et donc une personne qui est en état de péché grave est comme quelqu'un qui est dans un cadavre, qui est devenu un cadavre spirituellement parlant, et qui est porté en terre, parce qu'on ne peut plus rien faire de lui, tant qu'il est dans cet état-là. Et notre Seigneur Jésus-Christ est mu de compassion, parce qu'il est venu sur la terre justement pour s'occuper de ce cadavre. La mort spirituelle, c'est ça. Et le bon Dieu, pour bien montrer qu'il est Dieu, a le pouvoir de ressusciter les morts spirituelles. Il a le pouvoir d'arrêter le cercueil, de toucher le cercueil et de ressusciter le mort spirituel en lui rendant la vie divine par la confession, par l'absolution du prêtre ou par l'acte de contrition parfaite. Vous voyez, toutes ces choses sont splendides, surtout quand on regarde un petit peu comment les pères de l'Église expliquent toutes ces choses. Et ils expliquent que les porteurs, les quatre porteurs qui portent le cercueil qui s'arrête, représentent le pécheur qui arrête de garder dans son cœur des occasions prochaines volontaires de péché mortel. Il retrouve le contrôle de ses passions. Au début, les porteurs représentent les passions qui portent la personne, l'âme de la personne vers le cimetière, c'est-à-dire vers l'enfer. Et donc, lorsque Dieu arrête les porteurs, par sa grâce actuelle, les porteurs s'arrêtent, ça veut dire que les passions s'arrêtent. Elles tournaient dans le vide, sans être contrôlées par la volonté, d'un seul coup elles s'arrêtent, et Dieu va reprendre le contrôle de ses passions. Et à ce moment, il touche le cercueil. Pourquoi touche-t-il le cercueil? Les pères de l'Église ont remarqué que ce cercueil est en bois. Quel est ce bois? C'est le bois de la croix. Et si le bois de la croix n'est pas vivifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui coule justement sur ce bois, eh bien c'est un bois mort qui ne sert à rien. Et c'est de même que la croix, si vous voulez, le bois de la croix avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était une simple poutre de bois qui ne servait à rien. Lorsque ce bois a été touché par le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a fait de la croix quelque chose de glorieux. Et d'un seul coup, cette croix va illuminer le monde. Parce que justement, le monde tourne, mais la croix reste. C'est la devise des Chartreux. La croix, le monde tourne, la croix demeure. Et on représente ça par un globe terrestre, au-dessus du globe terrestre, la croix. Donc le monde tourne dans tous les sens, à toute vitesse, pour bien montrer que l'homme sans Dieu n'a plus aucun point stable, plus aucun point fixe pour contrôler sa vie. Au-dessus, il y a la croix qui demeure, qui est l'axe de cette terre. Et si nous reconnaissons cette croix, alors à ce moment-là, bien évidemment, nous pouvons nous accrocher à la croix et retrouver une stabilité. Comment il faut comprendre les choses. Et on voit très bien, donc notre Seigneur touche le cercueil, rend en quelque sorte la vie spirituelle à ce cercueil qui redevient le signe de la croix qui vivifie, et à ce moment-là, l'âme qui touche le cercueil, parce que l'âme qui est dans le corps, qui est dans le cercueil, représente l'âme dans le péché, touchée par la grâce sanctifiante, par la grâce du bon Dieu, qui a donné par sa croix, et bien on retrouve la vie. Et on retrouve les mêmes choses dans tous les miracles qu'a fait notre Seigneur. Et dans la bréviaire qui expliquait cet évangile ce matin, en bréviaire, du prêtre dans l'office des matines, il est dit qu'on est très impressionné par les trois miracles que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a ressuscité trois morts. Mais on ne voit pas les millions de miracles spirituels qui sont encore bien plus grands. Et donc ces miracles physiques que l'on voit chez notre Seigneur Jésus-Christ, qui ressuscite des morts physiques, représentent les miracles spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, va rendre spirituellement la vie à quelqu'un qui était mort spirituellement parlant. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de ressusciter un mort, est aussi capable de ressusciter les âmes. Et de ressusciter les âmes, c'est bien plus important que de ressusciter les corps. Le problème, c'est que les résurrections d'un corps, ça se voit, c'est très visible, tout le monde peut assister à ces choses-là. Quand on demande une résurrection, c'est quand même très impressionnant. Les résurrections spirituelles, l'âme qui rentre dans le confessionnal, toute couverte de boue, qui ressort dans toute la gloire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ça sont des miracles qui ne se voient pas. Et c'est pourtant beaucoup plus important. On voit les mêmes choses dans les deux autres miracles qu'a fait notre Seigneur, il a ressuscité trois morts. Le premier qu'il a ressuscité, c'est la fille du chef de la synagogue. Il rentre dans la chambre avec Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, et il va ressusciter la petite. Et la petite fille qui avait 12 ans, je crois, la petite était couchée dans son lit, morte. Donc notre Seigneur Jésus-Christ la touche, elle ressuscite. Il la ressuscite encore une fois par le contact avec sa croix. Et les pères de l'Église expliquent que cette première résurrection, la petite encore couchée sous son lit funèbre, représente le péché mortel privé. Deuxième résurrection, c'est celle d'aujourd'hui, Naïm. Là, c'est un peu plus grave. Pourquoi? Parce que le corps n'est plus gisant sur le lit mortuaire, il est porté déjà au cimetière. Ça représente le péché mortel qui passe du péché de privé au péché public. Et troisième résurrection, c'est la résurrection de Lazare, le frère de Sainte-Marie, Madeleine et Sainte-Marthe. Là, c'est encore plus extraordinaire parce que le corps était déjà dans le tombeau. Il a quitté le lit funèbre, il est porté en terre, déposé dans le tombeau. Là, le tombeau est refermé, il y a déjà 4 jours qui sont passés. Le corps sent déjà, dit Sainte-Marthe. Et bien, cela représente le péché qui est devenu un vice. Et pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ peut ressusciter spirituellement les morts, quel que soit leur degré de corruption, qu'ils soient au premier stage, au deuxième stage, au troisième stage, notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter les trois morts. Il va ressusciter la fille du chef de la synagogue, il va ressusciter le fils de la veuve de Naïm, et il va ressusciter Saint-Lazare. Et à chaque fois, avec le même ordre, sors, Lazare, sors dehors, Lazare, lève-toi. Quand notre Seigneur Jésus-Christ vient nous dire, levez-vous, levons-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu nous demande de nous sortir de notre torpeur, de sortir de notre tiédeur pour que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. On ne ressuscite pas d'entre les morts, quand on est mort spirituellement, tué spirituellement par le péché mortel, que le bon Dieu, avec sa grâce, sa miséricorde, nous ressuscite, c'est pas pour rester tranquillement faire la sieste. On ressuscite pour justement devenir la lumière du monde. Et celui qui ressuscite et qui ne veut pas devenir le sel de la terre et la lumière du monde, eh bien, il va recevoir un châtiment terrible parce que le bon Dieu lui a donné une grâce extraordinaire. Donc demandons cette grâce, eh bien, chers frères, par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est l'instrument de toutes les grâces. Elle n'a jamais eu besoin d'être ressuscitée spirituellement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été tuée, touchée par le péché. C'est la raison sans doute pour laquelle la Très Sainte Vierge Marie n'a pas vu la mort. On ne sait pas deux fois, on ne sait pas très bien si la Très Sainte Vierge Marie est morte et a été enlevée au ciel avec son corps et son âme le jour de l'Assomption, ou si elle s'est endormie, on ne sait pas. L'Église grecque penche plutôt pour la dormition de la Sainte Vierge. Qu'elle se serait endormie et que pendant son sommeil, les anges sont venus la chercher pour la prendre au ciel. L'Église ne s'est jamais prononcée là-dessus, et lorsque le pape Pie XII, en 1950, nous a donné le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, il a fait très attention de ne pas prendre une décision là-dessus parce que l'Église n'était pas sûre. Il a bien sûr affirmé le dogme, ça c'est certain, Notre-Dame est vraiment montée au ciel avec son corps et son âme, mais il a dit à la fin du cours de sa vie terrestre, elle fut enlevée au ciel. Parce qu'on ne sait pas si elle est morte ou non. Mais bien, chers frères, nous sommes nous aussi tous un petit peu des morts spirituelles, au moins de temps en temps, malheureusement. Eh bien, quand nous sommes des morts spirituelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Pleurer comme la mère de ce de comme la veuve de Naïm? Non. Chercher notre Seigneur. Aller chercher notre Seigneur et l'amener près du tombeau. Même si nous sommes dans la corruption depuis très longtemps, on pourrait se dire, mais monsieur l'abbé, j'ai passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, dans l'état de péché mortel, comment puis-je me relever? Si notre Seigneur Jésus-Christ a été capable de recomposer le corps déjà décomposé en décomposition de Lazare, c'est bien pour nous montrer ce qu'il peut faire sur une âme en état de péché mortel. Quel que soit le degré de péché de notre vie passée, si nous les regrettons, à ta grâce du bon Dieu, notre Seigneur va recomposer ce corps, va recomposer l'âme spirituelle et va lui redonner sa gloire, la gloire du baptême. Mais évidemment, si quelqu'un, je dirais, est allé plus avant dans le péché, qu'il est ressuscité par notre Seigneur Jésus-Christ, il doit avoir plus d'amour pour le bon Dieu que quelqu'un qui a eu moins de péché à se faire pardonner. Rappelez-vous la phrase de Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Et donc celui, Saint-Lazare, qui a passé déjà du temps dans le tombeau, devrait remercier plus notre Seigneur Jésus-Christ que la fille du chef de la synagogue qui n'a passé que quelques heures dans la mort. Donc faisons comme Notre-Dame. Notre-Dame, elle nous guide, elle nous mène vers le ciel parce qu'elle n'a jamais péché. Demandons-lui de nous tenir par la main, de nous garder justement de toute défaillance dans le péché. Avec l'aide du bon Dieu, avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, c'est possible. Alors nous demanderons. Mais bien, chers frères, pendant cette semaine, nous demanderons souvent cette grâce de ne pas offenser le bon Dieu. Cette semaine, nous avons deux très grandes fêtes. Nous avons la fête de Saint-Pédis demain, et le 8, je crois que c'est le 8, nous avons la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge Marie. Donc demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous donner cette force lorsque nous sommes accablés par le péché, détruits par le péché, gisant comme l'homme de la parabole, du bon samaritain gisant sur le côté de la route à moitié mort parce que nous avons été détroussés de tous nos biens spirituels par le démon. Allons chercher notre Sainte Vierge Marie. Allons chercher notre Seigneur Jésus-Christ parce que Notre-Dame a le pouvoir de nous amener à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de nous rendre à la vie spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.